If you wanna be my lover, you gotta get with my friends.
I'm representing for the gangsters all across the world. Still.
Bonjour, bonsoir, c'est Manu, je suis très heureux de vous présenter ce nouvel épisode de Radio Cassette. Dans chaque épisode de Radio Cassette, on vous raconte l'histoire d'un disque culte qui a marqué nos années 90. Dans cet épisode, on va vous parler de Francis Cabrel, le mousquetaire de la chanson française. Après le succès fou de l'album Sarbacane et le silence radio qui s'en est suivi pendant 5 longues années, tout le monde pensait que Francis Cabrel était finalement passé à autre chose, maintenant qu'il était installé tranquille pépère dans le Lot-et-Garonne. Eh bien non, il propose en 94 un samedi soir sur la Terre, un disque blues et flamenco à contre-pied total de son prédécesseur. C'est une authentique mine à tubes. Il contient La Cabane du Pêcheur, Octobre, Je t'aimais, je t'aime et je t'aimerai, et bien sûr La Corrida. L'album va rester dans le top 50 pendant 2 ans et deviendra même le disque le plus vendu en France dans les 90s, devant Manu Chao et Céline Dion. Francis Cabrel, on en parle tout de suite maintenant avec le Cassette Crew. Fanny.
Hello.
Grégoire.
Salut tout le monde.
Et Olivia.
Salut.
Alors Olivia, tu vas nous parler de quoi aujourd'hui ?
Eh bien, je vais vous parler de Tonton Freddy et du lycée Bernard Palissy d'Agen.
Ok, c'est précis. Et toi, Grégoire, tu vas nous emmener où ?
Eh bien Manu, je t'emmène et je t'emmènerai en studio à Toulouse avec Francis, bien sûr.
C'est beau ça.
Et on retrouvera Fanny en fin d'émission ?
Eh bien, moi, je vais vous parler d'un tournage de clip perturbé par des Auvergnats un peu trop accueillants.
Parfait. Alors, accrochez-vous, on va commencer par réécouter l'album en mode Fast and Furious. C'est parti.
Depuis le temps que je patiente dans cette chambre noire, j'entends qu'on s'amuse et qu'on chante au bout du couloir. Quelqu'un a touché le verrou et j'ai plongé vers le grand jour. J'ai vu les fanfares, les barrières et les gens autour. Je vais aller m'asseoir sur le rebord du monde, voir ce que les hommes en ont fait. Elle a dit justement, c'est ce que je voudrais savoir. Et j'ai dit, viens t'asseoir dans la cabane du pêcheur. C'est un mauvais rêve, oublie-le. Tes rêves sont toujours trop clairs ou trop noirs. Sur la terre, un samedi soir sur la terre. Mais quoi que tu fasses, l'amour est partout où tu regardes, dans les moindres recoins de l'espace, dans le moindre rêve où tu t'attardes. L'amour comme s'il en pleuvait, nu sur les galets. T'es tout ce qu'il me reste, l'amour. Dehors, c'est insupportable. Emmène-moi ailleurs, loin des vidanges du diable. Ailleurs. L'arbre va tomber, les branches salissaient les murs. Et rien ne doit rester, le monsieur veut garer sa voiture. Je t'offrirai des fleurs et des nappes en couleur pour ne pas qu'octobre nous prenne. Elle a dit non, sœur, non, sœur. T'es tombé du côté des nantis, des menteurs. Dans ta poitrine, j'entends le battement d'un compteur. Faut pas que tu comptes sur moi. Tôt ou tard, s'en aller par les ruisseaux devant nous, jusqu'au milieu d'une mer
quelconque sur le pont brisé d'une jonque qu'on va tôt ou tard s'en aller.
Waouh!
Que de souvenirs!
Ah, les poils! Voilà pour les 10 titres de Samedi Soir sur la Terre. C'est le 8e album solo de Francis Cabrel. Il sort le 6 avril 1994 en CD, cassette, vinyle et mini-disque sur le label Columbia chez Sony. Alors, qu'est-ce qui se passe en 1994? Alors, l'année est marquée musicalement parlant par Grace de Jeff Buckley, Demi de Portishead et le Ill Communication des Beastie Boys. En France, nous, on écoute les Cranberries, MC Solar et Patrick Bruel. 1994 va également être marqué par la séparation brutale et inexpliquée du groupe Nirvana, dont on n'a plus jamais entendu parler d'ailleurs.
C'est pas drôle de faire des blagues sur Nirvana. Non, mais en attendant, tu dis que l'album il est sorti le 6 avril, donc c'est le lendemain de la mort de Kurt Cobain.
Mais non.
C'est un lien, je pense.
Faut toujours placer Kurt Cobain dans un épisode de Radio Cassette.
C'est mon challenge.
Alors, au cinéma, cette année-là, on retrouve à l'affiche Un Indien dans la ville, Le Roi Lion et la comédie musicale, la comédie romantique, pardon, Quatre mariages et un enterrement. Alors, on va commencer par faire un petit tour de table. On va commencer par toi, Fanny. Quel souvenir ça t'évoque, Francis Cabrel?
Alors ça m'évoque principalement des souvenirs de radio, parce que pendant toute mon enfance, on écoutait beaucoup la radio. Je ne saurais plus te dire quelle chaîne, mais ça devait être quelque chose comme genre RFM, Nostalgie, et Cabrel, ça passait tout le temps, donc je l'ai beaucoup entendu. Et autre souvenir de radio, un peu moins glorieux, mais qui m'a beaucoup marqué, c'était les imitateurs, les humoristes qu'il y avait le matin, donc Laurent Gérard,
ouais, à fond,
puis Nicolas Canteloup, et Gérard qui faisait... la cabane au fond du jardin.
Voilà. Ouais. D'ailleurs, Francis n'était pas très très content de ça. Pas du fait qu'on se moque de lui, mais qu'on tourne en dérision ses paroles.
Ouais.
Du coup, ça c'est un truc, ça le faisait un peu plus chier. Ouais.
Et après, les guignols ont fait la grand-mère à moustache.
Je m'en souviens pas de ça, ouais, la grand-mère.
C'est quoi, oui, je me souviens
pas.
C'était
le personnage de Francis Cabrel au Guignol où il disait, il arrêtait pas de répéter, c'était mieux avant.
Ah oui, d'accord, ça venait de là. Ouais, bah, effectivement, ouais, maintenant que tu me le dis. D'accord, donc des souvenirs plus de radio. Ok, et toi, Greg, du coup, ça t'évoque quoi?
Moi, justement, ça m'évoque des souvenirs d'accent, parce qu'avec des potes, notamment avec mon cousin David et mon pote Thibaut à l'époque, on était en 6e, et on se marrait effectivement à chanter avec l'accent du sud-ouest, comme Francis Cabrel, à tourner un petit peu en ridicule cet accent. Et donc, c'est plutôt des souvenirs de grosses déconnades avec des potes, même si au fond de moi, je savais que j'avais du respect pour Francis, mais je pouvais pas m'empêcher de rigoler là-dessus. Et donc, c'est plus des souvenirs un peu de dérision autour de Francis Cabrel. On s'amusait à raconter n'importe quoi. Avait l'accent
de France. C'est tellement sa marque de fabrique.
Ouais.
Et toi, Olivia, alors, quel souvenir?
Alors, moi, il y a deux souvenirs. Le premier, c'est que je suis allée à un concert de Francis Cabrel.
Mais non.
What?
Absolument.
Mais comment tu fais? T'as toujours des anecdotes de ouf, de Olivia. Ouf. Je suis super jaloux. Moi, j'ai jamais rien à dire, à part des trucs tout pourris. Et toi, t'es là, ouais, je l'ai vu en concert. Ah ouais, incroyable, le gars rentre chez moi. Il m'invite à dîner. Souvenir incroyable.
Ah ouais, tu connais pas Francis?
Bien sûr, le mec trop sympa, le cœur sur la main, quoi, Francis. Ouais. Non, donc je suis allée à un concert avec j'étais jeune, puisque je devais être allée en CM2, 6e, quelque chose comme ça, et avec une copine et sa maman. Et en fait, je me souviens très bien que je m'étais fait engueuler par la maman parce que je chantais trop fort et qu'elle ne pouvait pas entendre Francis.
Ah, mais voilà. En même temps, je l'ai vécu tellement de fois, ça, d'avoir les fans à côté qui te hurlent dans les oreilles. Ah ouais.
Ben voilà, donc
non,
ça,
je la comprends,
c'était,
ta maman.
C'est donc la mère de ma copine qui m'avait engueulée. Et le deuxième, c'est je devais être en 5e et le prof de musique nous avait fait chanter Octobre. Donc je la connais par cœur.
Non, mais ça y est, du coup, j'ai un autre souvenir. J'avais été.
Ah non, mais t'as niqué ton tour.
Ah non, allez, stop. Allez, vas-y, stop. Non, c'était. On avait appris aussi en cours, pareil, CM2, je pense, La Dame de Haute-Savoie.
Ah bah bien
et
sûr.
Et je l'avais dans la tête, cette chanson, La Dame de Haute-Savoie.
Mais alors, c'est pour ça qu'au moment de préparer cet album, tu m'as dit, mais attends, mais c'est pas l'album sur lequel il y a La Dame de Haute-Savoie.
Mais ouais,
je t'ai dit trois fois, non.
C'est pour ça. Et toi, Manu?
Pas de gros souvenirs. Moi, c'était pas de la radio, c'était plutôt de la télé. Je me souviens de ce clip de La Cabane du Pêcheur que j'ai adoré, qui était trop cool et trop kitsch
en même temps.
Et puis, bien sûr, c'est un album qui m'a accompagné tout un été. C'est un album que ma sœur avait acheté au Club Dial. Je vais pas, pas vous reparler encore du Club Dial.
Est-ce qu'on fait un partenariat?
Référence, confère tous les précédents épisodes de Radio Cassette pour savoir ce que c'est que le Club Dial.
C'est comme Kurt Cobain dans chaque épisode, il utilise le Club Dial.
Voilà, et les mini-disques.
Donc voilà pour mon souvenir. J'en ai un autre, c'était que c'était également ma première compilation cassette. En fait, j'avais mis dessus Francis Cabrel, j'avais mis donc La Cabane du Pêcheur, et on retrouvait d'ailleurs sur la même compile, on retrouvait Céline Dion et La Schtroumpf Partie, je vous jure.
T'as pas changé de goût en fait, hein. Bah ouais. T'es toujours resté constant dans tes goûts musicaux, finalement.
T'en as jamais eu autant de souvenirs à raconter qu'avec Francis Cabrel, c'est incroyable.
Mais je crois que tout le monde se souvient d'une anecdote
c'est
avec culte, Francis. Il fait partie de nos familles, Francis. C'est ça,
ouais. Complètement. Alors on va revenir sur l'histoire de ce succès, et je me tourne vers toi, Olivia. On va revenir un petit peu en arrière sur l'histoire de Francis Cabrel qui commence, comme par hasard, dans le Lot-et-Garonne.
Mais tout à fait. Donc Francis Christian Cabrel naît le 23 novembre 1953 à Agen, dans une famille originaire d'Italie. Son père est ouvrier dans une biscuiterie, sa mère caissière dans une cafétéria. Il passe son enfance à Astafort, dans le Lot-et-Garonne. D'ailleurs, il y vit toujours.
Non.
Absolument, il a même été conseiller municipal de 89 à 2004.
C'est ouf, il était étiqueté à gauche ou à droite ?
Gauche.
Okay.
De cette enfance modeste mais heureuse, il hérite d'un certain coup de la discrétion, l'amour du terroir et surtout un accent du sud-ouest qui aujourd'hui encore reste sa marque de fabrique et un élément de son identité musicale, puisque ça manque pas, on en a parlé au bout de 3 secondes 50, évidemment.
Si tu savais ce que je me retiens pour...
Pas d'accent, on a dit.
On sent que ça couvre.
Donc à 13 ans, il entend pour la première fois « Like a Rolling Stone » de Bob Dylan à la radio, et c'est le déclic, il veut faire de la musique. À Noël, son oncle Freddy lui offre une guitare. Il se met à composer ses premiers morceaux et reprend les chansons de Neil Young, Leonard Cohen et évidemment Bob Dylan. La seule matière où il est bon à l'école, eh ben, c'est l'anglais. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il apprend en traduisant les paroles de ses idoles.
Like a rolling stone.
Je vous propose qu'on écoute d'ailleurs Suzanne, chantée par Francis en anglais.
Suzanne takes you down to a place near the river. You can hear the boats go by. You can spend tonight beside her. And you know that she's off crazy. Oh, that's why you want to be there. And she feeds you tea and oranges that comes all the way from China. And just when you mean to tell her that you have no love to give her, etc., etc.
C'est beau, ça?
Mignon, j'adore.
C'est donc, génial, je crois qu'il chante à peu près pareil que moi en anglais, quoi. Il a le même
non.
C'est vrai qu'au début, t'es tenté de un tout petit peu te foutre de sa gueule, mais en fait, le mec est quand même bon. Chante bien.
Franchement, il a pas un accent non plus à couper au couteau. Hein. Ça va, il se débrouille. Hein.
Alors, ce qui est assez fou, moi, je trouve, c'est que, en tout cas, pour moi, Cabrel, c'est vraiment l'incarnation du chanteur français. Pourtant, lui, il explique en interview que pendant très longtemps, la langue française a été un handicap pour lui pour chanter. Pour lui, le rock et le blues, en français, ben, ça sonne pas du tout. C'est assez fou parce que finalement, il a fait de cette faiblesse une force. C'est beau. Hein.
Bah ouais, carrément.
Allez.
Autre motivation pour apprendre rapidement la guitare, lutter contre sa timidité. Ado, il pensait que sa guitare lui permettait de se rendre plus intéressant aux yeux des autres et surtout aux yeux des filles. Gros lover, Francis. À 17 ans, il commence à monter plusieurs groupes de folk rock et chante dans les orchestres de bal. Mais bah, ça fonctionne pas très très bien et tous ces groupes finissent par se séparer. Il y a autre chose qui marche pas très bien pour Francis, c'est l'école. En première, il est renvoyé du lycée Bernard Palissy d'Agen à cause de ses absences trop fréquentes. Il travaille alors à 19 ans comme magasinier dans un magasin de chaussures, tout en jouant dans des bals locaux avec un groupe qui s'appelle Ray Frank et les Jazzman. Le groupe se renomme par la suite les Gaulois à cause de leurs moustaches.
Déjà les moustaches.
Non, mais parce qu'il a la moustache d'Astérix, hein. Vraiment, c'est hallucinant. Hein. Quand on regarde les photos, elle est longue et fine. C'est
hallucinant.
Dingo, quoi. Bah ouais.
Donc il joue dans tous les bals du village, de tous les villages de la région, et à chaque fois, on lui demande de chanter les reprises de C'est Jérôme et de Michel Sardou. Lui, il devient fou parce qu'il aimerait chanter Jimi Hendrix, Eric Clapton et les Who. Forcément, pas la même cam.
Eh vas-y, t'as pas du C. Jérôme dans ton répertoire ? Ça doit être relou. Oh là là.
J'ai même vu une interview où il racontait qu'en fait, il se gardait pour lui les meilleurs morceaux du set, où il chantait, il prenait le micro, et sinon pour tous les autres, les C. Jérôme et compagnie, il les refilait à quelqu'un d'autre. Quoi.
Je le comprends.
Alors les Gaulois marchent bien, mais c'est en solo que Francis va cartonner. En juin 1974, il est à Toulouse et il participe à un concours de chansons de Sud Radio.
Tout à fait. Donc, ce concours, c'est un peu une espèce de Star Academy géante où se succèdent 400 candidats devant un jury composé notamment de Daniel et Richard Seff, deux frères connus dans le milieu de la chanson et notamment dans le Sud-Ouest. Intronisés par Nougaro, ils vont écrire pour Mike Brandt, Gérard Lenormand et Joe Dassin. Du lourd, quoi. Et ben vous savez quoi, et ben Francis, et ben il va gagner le concours.
Allez.
Ah, bravo, applaudissements pour Francis.
Avec une chanson qu'on connaît tous, Petite Marie, dédiée à sa femme Mariette Dargeau. Il remporte 2000 francs et les frères Seff lui ouvrent les portes du label CBS. Il signe alors son premier album Mur de poussière en 77. La machine Francis est lancée. La même année, à l'occasion de la campagne de la nouvelle chanson française de la maison de disques, Francis Cabrel sort son premier simple, Ma ville. Mais rapidement, il n'a le sentiment que CBS... Non, CBS, je déconne. En tout cas, il a le sentiment que le label ne le laisse pas exprimer sa vraie personnalité. En fait, Francis et Prince, c'est le même combat, quoi.
Ouais, c'est ça, faut expliquer, parce que Prince, il composait tout, il était omnipotent, et c'était écrit, enregistré, produit, mixé par Prince, voilà. C'était ça, quoi.
Et ben Francis, c'est pareil.
Ouais, il veut garder le contrôle absolu.
On a peur de rien, on aura deux cassettes, on fait les comparaisons de l'extrême.
C'est ça.
Alors, par exemple, exemple de censure de son label, dans la première version de Petite Marie, on lui demande de gommer son accent du Sud-Ouest.
Comment ça ?
Vous écouterez, mais on l'entend particulièrement à la fin des phrases quand il prononce des milliers de roses. Ouais. Par la suite, il dira des milliers de roses.
La chanson s'appelle Petite Marie. Voici, pour la première fois à la télévision, Francis Cabrel.
Petite Marie, je parle de toi parce qu'avec ta petite voix, tes petites manies, tu as versé sur ma vie des milliers de roses. Petite furie, je me bats pour toi pour que dans 10 000 ans de ça, on se retrouve à l'abri sous un ciel si joli que des milliers de roses.
Donc là, vous avez bien entendu, il dit rose, il dit pas rose.
Il le dit bien.
Bah alors Francis, pourquoi t'as pas tout fait comme ça ?
Il n'y a pas de blême.
En 78, il monte à Paris et assure pendant un mois la première partie à l'Olympia d'une superstar de l'époque, Dave. Le public est conquis, ses chansons attendrissent et émeuvent. Mais problème, et c'est toujours le cas aujourd'hui, Francis déteste la promo. Sa timidité légendaire reprend le dessus. Il en fait le moins possible. Il raconte d'ailleurs qu'il essaye toujours d'être assis pendant ses interviews de peur de tomber dans les pommes.
Le pauvre.
L'année suivante, Cabrel enregistre son deuxième album, Les Chemins de Traverse, et entame une tournée en France et en Belgique. Je l'aime à mourir devient immédiatement l'énorme tube de l'été 79. Cabrel s'impose comme une nouvelle personnalité de la scène française.
Moi je n'étais rien et voilà qu'aujourd'hui je suis le gardien du sommeil de ces nuits. Je l'aime à mourir. Vous pouvez détruire tout ce qu'il vous plaira. Elle n'a qu'à ouvrir l'espace de ses bras pour tout reconstruire, pour tout reconstruire. Je l'aime mourir. Elle a gommé les chiffres des horloges du quartier. Elle a fait de ma vie des cocottes en papier, des éclats de rire. Elle a bâti des ponts entre nous et le ciel, et nous les traversons à chaque fois qu'elle ne veut pas dormir, ne veut pas dormir. Je l'aime mourir. Elle a dû faire toutes les guerres pour être si forte aujourd'hui. Elle a dû faire toutes les guerres de la vie et l'amour aussi. Elle vit de son mieux son rêve.
Et là, c'est fou parce que tout le monde chante.
Elle danse
hein.
Au milieu des forêts. Ouais,
et là, je me rends compte que je la connais encore. Je connais encore toutes ses paroles.
Bien sûr, elle est géniale.
Mais sans l'avoir apprise particulièrement, c'est qu'on l'a tellement entendue que je connais par cœur.
Celle-là, je l'ai apprise par contre parce que je l'ai jouée à la guitare. Et donc, du coup, voilà.
Mais je pense que tout le monde connaît des passages.
Moi, elle était sur ma compile.
Je dis ça, je dis rien.
Donc, nous sommes en 1980. Il revient avec l'album Fragile, dont le titre La Dame de Haute-Savoie, mon cher Greg.
Ouais,
passe
j'adore.
Immédiatement en tête des classements.
Voilà un blues, un brin ringard quand même. Voilà, c'était ce que je veux dire. Pourtant, j'adore le blues, hein, mais c'est vrai que parfois. Bon, voilà. Bon, je dis ça, je dis rien. Voilà. Oubliez-moi, je dis plus rien.
Mais bon, comme d'habitude, l'ami Francis a le triomphe modeste. Il ne se laisse pas emporter par le star system. Entre deux concerts et enregistrements, il se contente de sa petite vie tranquille avec sa femme à Astafor. Toujours engagé pour sa région et parce qu'il trouve que les jeunes s'y ennuient un peu, il crée en 88 les Rencontres d'Astafor, un festival régional de musique traditionnelle où se produisent luthiers et guitaristes. Ça doit y aller, hein. L'année suivante, il sort l'album Sarbacane qui est immédiatement un énorme succès. 2 millions d'exemplaires de l'album seront vendus. Sarbacane, c'est le tournant de sa carrière. Jusque-là, ses albums se vendent plutôt bien, on va dire aux alentours de 500 000 albums. Désormais, ils deviendront systématiquement des ventes records, des albums qui terminent constamment meilleures ventes de l'année. Francis is bankable, les amis.
Alors après l'immense carton donc de Sarbacane, Francis Cabrel décide de lever le pied. Il se consacre au festival qu'il a créé, à son mandat de conseiller municipal et à sa petite famille. Et en fait, Francis, il se qualifie lui-même de flemmard. Il y a une phrase, moi, qui m'a marqué. Il se remet à l'écriture, je cite, « Quand ses enfants ont faim ». C'est génial, non?
Là, ça a pris 5 ans.
Ça fait un peu Zola, quand même.
Ouais, ça fait Zola. Mais il y a un côté vraiment, genre, je m'y mets si j'ai pas le choix, quoi. J'adore.
Mais il a tout compris, hein, franchement. Donc cette fois-ci, comme je le disais, ça a pris 5 ans. Il retourne enfin en studio en 94 et produit le disque qui nous réunit aujourd'hui, Samedi soir sur la Terre. Mais c'est quoi ce samedi soir sur la Terre? Cette dernière grande fête, un dernier moment d'insouciance avant que tout ne s'éteigne, il le dit lui-même en interview.
J'ai l'impression que la planète dégringole, qu'elle vit un peu sa dernière fête. J'ai honte pour elle. Je souffre, j'ai mal. Profondément pessimiste et désespéré, j'évacue le spleen à ma façon, en envoyant des bulles, en écrivant des chansons.
Ben, ça n'empêche pas que l'album est un énorme caton et les tubes comme Samedi soir sur la Terre, Je t'aimais, je t'aime et je t'aimerai, La cabane du pêcheur ou La corrida vont absolument envahir la radio. Si la question était de savoir si Sarbacane avait été un succès ponctuel, un coup de chance ou si Francis allait pouvoir répéter le carton, eh ben, c'est même au-delà. Samedi soir sur la Terre reste à ce jour son plus grand succès. Au total, l'album est resté numéro 1 pendant 29 semaines, soit plus de la moitié de l'année 94.
C'est complètement ouf.
Et au final, c'est 4 millions d'exemplaires vendus. Je voudrais finir avec un petit cadeau et vous allez adorer. En 97, DLG, Dark Latin Groove, un boys band new-yorkais, reprend sa chanson « Je l'aime à mourir »,« La quiero a morir » en version salsa.
Oh non.
Ella para las horas de cada reloj y me ayuda a pintar transparente el dolor con su sonrisa. Y levanta una torre desde el cielo hasta aquí y me cose unas alas y me ayuda a subir a toda prisa.
Quand même, hein. Wow. Peut-être ouais, se calmer un petit peu, jeune homme.
Je peux vous dire que la température est montée d'un cran chez Fanny où on enregistre aujourd'hui.
Oh là là. Non, mais, et c'est pas Shakira qui a repris cette chanson d'ailleurs?
Aussi, tout à fait.
Mais c'est quand même improbable. C'est comme si, je sais pas, Jennifer Lopez reprenait Sardou. Ou...
et c'est pourquoi vrai. Pas? Et
la gosse del Connemara.
Incredible success.
Je suis pas tout à fait sûr de la traduction. Faudra qu'on demande. Vous avez capté l'idée, quoi.
Et bien, sur cet magnifique extrait, je rends le micro. J'ai tout donné, je crois.
Merci, Oli. Effectivement, en fait, la story de Francis, moi, je trouve que finalement, c'est l'histoire d'un gars qui bosse le moins possible et à qui tout réussit, en fait.
Je sais pas s'il après, bosse le moins possible.
C'est énervant, quand même.
Je pense qu'il est très modeste et il dit ça comme ça en disant, voilà, lui, il bosse quand il a besoin parce que c'est du travail, c'est difficile. Mais en vrai, je pense qu'il bosse. Hein.
Ouais,
non, je suis pas sûr
Il met un an à écrire un album quand même.
Pas sûr qu'il soit flemmard. Hein.
Mais entre deux albums, non. Il fait quoi?
Bah,
il vit. C'est ce qu'il explique. Il a besoin de vivre pour écrire.
Ça demande du boulot.
Il a besoin de rencontrer des gens, d'avoir des expériences, qu'il se passe des choses en fait. Il va pas écrire, il écrit pas au kilomètre quoi.
Il a tout compris en fait. C'est plutôt ça.
Écoute Francis, si tu nous écoutes, on serait ravis d'avoir ton avis là-dessus. Alors, on va passer maintenant au making-of d'un disque culte. C'est le moment de passer à l'enregistrement de cet album avec toi, Grégoire.
C'est le moment qu'on attend tous.
Bah, bien sûr. Ouais. On va prendre le TGV direction Toulouse.
Oui, on va à Blagnac, juste à côté de Toulouse, au studio Polygone. Et ne vous y trompez pas, c'est pas parce qu'on n'est pas à Paris qu'il s'agit là d'un petit studio de province. En réalité, et je vous le donne en mille, c'est l'un des plus sophistiqués au monde à cette époque. Ces studios disposaient notamment d'une régie technique conçue par un certain Tom Hidley, l'un des spécialistes les plus renommés dans ce domaine.
Tiens.
Il faut savoir que Toulouse connaît un âge d'or de l'enregistrement studio dans les années 80, avec les studios Polygone donc, et les studios Condorcet, qui vont attirer de nombreuses stars de l'époque, même Michel Sardou. Et l'histoire de ces studios reste intimement liée au chanteur dit de l'école toulousaine, entre guillemets. Hein. On parle ici, par exemple, du groupe Image, de Jean-Pierre Madère et son tube Macumba, que Fanny va nous chanter tout de suite.
Non.
D'accord.
Moi vivante, jamais.
Et donc, bien sûr, Francis Cabrel, qui connaît parfaitement ces studios toulousains, puisqu'en 1983, l'album Quelqu'un de l'intérieur est enregistré à Condorcet, et Sarbacane, l'album qui précède, donc, Un samedi soir sur la Terre, est enregistré en 1989, également au studio Polygone.
Alors oui, 1989 pour Sarbacane, 94 pour Un samedi soir sur la Terre. Au final, c'est un album tous les 5 ans. Ce sera quoi, grosso modo, c'est le rythme de croisière de Francis Cabrel.
Et oui, le gentleman gascon est un homme qui aime prendre son temps. Il est extrêmement méthodique. Pour écrire ses chansons, il dispose de carnets de notes de couleurs différentes pour chaque année. Il explique un peu son processus d'écriture dans une interview réalisée pour la radio RTL2. On écoute.
Je commence en général assez tôt le matin et toute la journée, je n'ai en tête que cette phrase que j'ai ratée, qui n'est pas totalement construite. Et la nuit qui suit, c'est pareil, comme ça pendant un an et demi, c'est pour ça que je m'y mets pas souvent.
Je pense qu'il faut, il faut traverser tout un tas d'émotions, rencontrer tout un tas de gens avant de recommencer à écrire, sinon on n'écrit que des histoires de chanteurs.
Et parmi les grands textes de cet album, il y a évidemment La Corrida. L'histoire de cette chanson phare commence dans les arènes de Bayonne, quand Francis Cabrel assiste à une corrida qui va profondément le bouleverser. Et sur le trajet retour, dans sa voiture, il commence à enregistrer des bouts de phrases sur un magnétophone, mais il faudra attendre plusieurs années de travail avant de finaliser ce tube et cette chanson militante et audacieuse, qui donc adopte le point de vue du taureau pour mieux pointer du doigt la cruauté de notre soi-disante humanité. Un titre aux sonorités hispaniques sur lequel on peut entendre la voix éraillée de Nicolas Reyes, le leader des Gypsy Kings.
Venga, venga, baila, y mataré los otros.
Nicolas Reyes, c'est pas lui qui a fait un duo aussi avec Björk sur Jogi Joga.
Oh, pas mal.
Punchline.
Vous l'avez.
Alors une référence du coup à la chanson Yoga. Hein,
voilà.
Yoga.
Album en Espagne, c'est logique. Elle était très bonne. T'avais voulu la faire sur Björk et t'avais oublié. Là, du coup,
il fallait que tu la fasses.
ça fait un mois qu'elle ronge son frein et qu'elle se dit cette fois je la place.
Elle est bonne, elle est bonne.
Bon, blague à part, la corrida, moi, ça, elle m'émeut beaucoup cette chanson. Enfin,
franchement, ouais. C'est vrai, c'est quand même assez culotté. Ouais. Surtout, voilà, peut-être dans un milieu un peu provincial ou du coup dans le sud-ouest. Non, mais ou en tout cas la corrida.
Vieux, chez les provinciaux, quoi.
Non, mais je dis pas que tous les provinciaux dans le sud-ouest sont amateurs de corrida, mais malgré tout, c'est quelque chose d'assez populaire. Et de venir faire une chanson comme ça, c'est quand même assez culotté, assez courageux.
Alors moi j'ai mis très très longtemps à capter que ça parlait en fait du taureau.
D'un taureau,
enfin,
oui.
J'avais capté la corrida, mais je savais pas que c'était le taureau qui parlait.
Ouais, je crois que pareil. Moi, quand j'étais petit, après quand t'es petit, t'es un peu bête, ouais.
T'es un peu con, à 10 piges,
t'es un peu con. Ouais.
Quand t'es grand aussi, t'inquiète.
Et toi, Fanny, tu kiffais la corrida?
La corrida, la chanson?
Ouais.
Ou
non, oui, je sais pas. Les deux.
Non, la chanson, mais j'avais jamais fait gaffe aux paroles non plus, c'est vrai. C'est en écoute, enfin en travaillant sur.
Alors pardon, hein, mais si vous écoutez pas les paroles chez Francis, vous faites quoi?
On écoute la guitare. Bah oui, c'est joli quand même. Alors comment ça se passe d'ailleurs une fois en studio, Grégoire? Il déconne un peu Francis ou bien ça se passe comment?
Pas trop. Hein. Tout est hyper bordé avec Francis. Il y a peu de place à l'improvisation et aux trouvailles de dernière minute. En fait, le chanteur a pour habitude de réaliser des maquettes très précises de ses chansons avant d'entrer en studio. Le matin, en général, il présente au groupe ses maquettes avec le chant principal, les chœurs, les guitares, la basse, le piano, la batterie. Puis, les musiciens travaillent sur la chanson un ou deux jours avant de l'enregistrer. Les corrections éventuellement apportées vont vraiment être à la marge. Le morceau, lui, ne bouge plus. Tout de suite, on écoute les précisions du maestro sur cette manière de fonctionner. C'est lors d'une interview pour la chaîne MCM. C'était une chaîne qui appartenait au groupe M6 à l'époque. Elle était réalisée en 1994.
Chez moi, qui me prennent d'ailleurs la moitié de mon temps, puisque quand je parle d'une année pour faire des chansons, il y a dans cette année le temps que je mets à faire des maquettes extrêmement rigoureuses et précises, avec l'idée poussée à son maximum. Et donc on part de là et en général on tourne juste autour comme ça un peu, mais les musiciens amènent donc de la vie, quelques idées par-ci par-là, mais pas trop, il faut pas. Je peaufine comme un artisan, donc je prends le plus de temps possible. Une fois que je le donne, je suis heureux d'avoir la vie des autres, c'est ça qui nous tient debout. Et c'est vrai qu'on a envie de réactualiser son propos, de dire qu'on est toujours là, qu'on est préoccupé, qu'on est vivant, quoi.
Ouais, c'est-à-dire que j'aime bien voir la vie des autres quand ils sont d'accord avec moi, que ça bouge pas trop, quoi.
Faut pas trop que ça change, ouais, voilà. On a bien compris. Alors donc, au studio Polygone, Cabrel retrouve de vieux compagnons de route, des fidèles qui sont autant des amis que des collègues de travail, comme les guitaristes Jean-Pierre Bucolo, dit Titi, Bernard Paganotti, Denis Lable,
dit Toto.
Ou il y a aussi le batteur Manu Katché, hein, qu'on connaît bien, déjà présent sur Sarbacane, ou encore Gérard Bicchialo, un ancien du groupe Magma. Hein, alors, pour ceux qui ne connaissent pas, Magma, c'est un groupe de musique progressive, un peu expérimentale,
c'est un peu
des
le
années
Pink
70.
Floyd français, quoi.
Ouais, exactement. Super groupe. Du coup, c'est assez éloigné. Et Paganotti aussi, l'un des guitaristes, est un ancien de Magma, je crois. Hein. Donc, ça fait deux anciens de Magma chez Francis Cabrel. Je ne sais pas si c'est un hasard. Et donc, ce Gérard Bicchialo, depuis 1985, c'est l'un des hommes clés du dispositif artistique de Francis Cabrel, dès que l'on évoque les enregistrements studio. Puisque depuis cette date, il assure la quasi-totalité de la direction musicale des albums du chanteur. Ici, vous le savez, la team Cabrel nous sort le grand jeu avec ce disque dont les 25 premières minutes ne comportent que des tubes. Sur cet opus, les arrangements discrets font la part belle à la guitare acoustique, à une atmosphère folk chaleureuse, un peu terroir. On retrouve aussi des ballades à vous fendre le cœur, « Je t'aimais, je t'aime, je t'aimerai ». Et puis, vous le savez tous, la grande passion de Cabrel, ben, c'est le blues, des sonorités bluesy que l'on retrouve sur les titres « Assis sur le rebord du monde », peut-être une référence à Doc Watson et son « Sitting on the top of the world ». Peut-être est-ce une référence, très bonne chanson, je vous invite à l'écouter. Influence blues aussi sur le « Noceur » ou encore « Un samedi soir sur la terre » dont la mélodie, le phrasé, les arrangements de nappe d'orgue et la durée, 7 minutes, ne sont pas sans rappeler des titres fameux de Bob Dylan, le héros et le modèle absolu de Francis Cabrel.
Il arrive, elle le voit,
elle le veut, et ses yeux font le reste. Elle s'arrange pour mettre du feu dans chacun de ses gestes. Après, c'est une histoire classique. Quelle que soit la fumée, quelle que soit la musique, elle relève ses cheveux, elle espère qu'il devine dans ses yeux de figurine. Il s'installe, il regarde partout, il prépare ses phrases. Comme elle s'est avancée un peu, d'un coup leurs regards se croisent. Après, c'est une histoire normale. Le verre qu'elle accepte et les sourires qu'il étale. En s'approchant un peu, il voit les ombres fines dans ses yeux de figurine. Pas la peine que je précise d'où ils viennent et ce qu'ils se disent. C'est une histoire d'enfant, une histoire ordinaire. On est tout simplement samedi soir sur la terre. Un samedi soir sur la terre.
Alors merci Grégoire, c'était super intéressant ce petit making-of. Alors j'ai avec moi cet album Un samedi soir sur la terre. Alors c'est pas juste un disque, mais c'est un véritable objet que je tiens entre les mains. Fanny, est-ce que tu pourrais commencer par nous parler de la pochette, s'il te plaît ?
Eh bien, le moins qu'on puisse dire, c'est que les épisodes se suivent et ne se ressemblent pas. C'est un peu le grand écart de ouf entre passer de Björk la dernière fois à Francis Cabrel aujourd'hui. L'univers visuel de Cabrel est fidèle à l'image que les gens en ont, humble, discret et sensible, comme on l'a vu. C'est un mec super loyal aussi, qui s'entoure d'une équipe de proches collaborateurs et qui va faire appel à eux sur tous ses projets pendant des années. Bon, on avait déjà rencontré le même type de loyauté, c'est vrai, chez Radiohead, Oasis ou Manu Chao, qui collaborent donc effectivement avec les mêmes personnes d'un album à l'autre. Mmh. Alors, pour la réalisation de la pochette d'Un samedi soir sur la Terre, dans les crédits, on trouve la mention...
Illustration, photographie et maquette de Maxime Ruiz, assisté de Muriel Ferstenberg.
Et qui c'est-il, ces deux-là ? Alors, Maxime Ruiz, c'est un photographe et réalisateur argentin qui a fait sa carrière en France. Une trajectoire un peu parallèle à celle de Gaspard Noé, qu'il a côtoyé à ses débuts d'ailleurs. La mère de Ruiz est française. Il quitte l'Argentine dans les 70s pour venir faire des études de cinéma à Paris. Il devient graphiste, puis bosse dans la pub avant de passer photographe. De fil en aiguille, au début des années 80, il réalise sa première pochette d'album pour Hubert Félix Thiéfaine. En 89, Francis Cabrel le contacte pour travailler sur Sarbacane et c'est le début d'une longue, très longue collaboration. Car en effet, depuis, Maxime Ruiz signe le design de tous ses albums. Il réalise à la fois les photos et la direction artistique. Donc pas là, mal. Comme tu l'as dit, c'est vrai, ça va plus loin que le livret habituel en papier glacé inséré dans son vieux boîtier plastique. On a entre les mains un mini-livre de 40 pages avec une couverture cartonnée et le CD glissé dans un encart à la fin. C'est un très bel objet, maquetté avec du papier épais, texturé. On retrouve toutes les paroles des chansons avec leur date de création, c'est hyper précis, sur 25 pages. Puis des photos de l'enregistrement en studio, une double page plus poétique et ensuite les mugshots des 12 musiciens qui ont contribué à l'album. Moi, je trouve ça hyper classe.
Ça a dû coûter un pognon de dingue.
Mais grave.
gros budget. J'ai pas trouvé les chiffres. Mais moi, je trouve ça hyper classe de mettre tous les musiciens en avant sur un pied d'égalité avec Cabrel, de souligner qu'il s'agit d'un travail d'équipe plutôt que de toujours garder les petites mains dans l'ombre.
Ouais, mais ça, c'est sûr, sur sa fidélité avec les musiciens qui l'accompagnent, c'est pareil. Hein, ouais. C'est toujours les mêmes. Grosso modo. Hein.
À la vie, c'est à la mort.
Ouais. Attends, il ne déçoit jamais, Francis.
Ouais. Ouais, ça m'étonne
et donc,
pas.
Voilà, dans l'album, il y a plein de photos en groupe avec tous les musiciens.
Alors oui, Francis, on peut dire que c'est vraiment un chic type, quoi. Et alors, qu'est-ce qu'on voit sur cette belle pochette ?
Alors cette image, c'est un montage numérique créé par Maxime Ruiz en collaboration avec Muriel Ferstenberg, une peintre française pas très connue qui collabore de temps à autre à des projets de Cabrel. Donc là, on a une infographie dans des tons gris-bleu qui représente un couple échappé du 19e siècle, elle en robe de gala, lui en queue de pie, en train de danser une valse au milieu d'une piste ronde. Ils sont en contre-jour avec un nuage de fumée derrière eux et des sortes de bombes qui pleuvent du ciel. Au centre de l'image sont inscrits le nom de Cabrel plus le titre de l'album. Et en surimpression sur la couve, il y a un vernis sélectif transparent qui nous permet de lire toute une liste de noms de villes du monde entier. Paris, Buenos Aires, Brazzaville, Bombay, etc. C'est une interprétation finalement assez littérale du titre « Samedi soir sur la Terre » avec la rondeur de cette planète et l'énumération de destinations aux quatre coins du globe. On imagine une sorte d'allégorie de l'amour qui rappelle aussi ces lignes de la chanson « Assis sur le rebord du monde ».
J'avais commencé une histoire sur une planète nouvelle, toute bleue. Bleue pour pas qu'on la confonde. Je vais aller m'asseoir sur le rebord du monde, voir ce que les hommes en ont fait.
Waouh, j'adore quand vous parlez de cette pochette. C'est magnifique, c'est encore mieux que la pochette elle-même peut-être.
C'est pas faux.
Alors merci du coup pour ces explications sur la pochette. Et pour les clips, tu as choisi de nous parler duquel ? Est-ce que c'est celui de la cabane du pêcheur ? Parce que franchement, je te jure, je crois que c'est vraiment mon préféré.
Bon, c'est vrai, la vidéo de la cabane du pêcheur dont tu nous parles, Manu, c'est un des 5 clips tournés pour promouvoir l'album. Là encore, beaucoup de pognon hein, finalement. Je pensais pas qu'il y en aurait autant. Et oui, j'aurais pu vous parler de ce clip assez savoureux avec des effets spéciaux made in 90s qui ont hyper mal vieilli. Mais pourtant là, alors qu'on sort de l'hiver, j'ai envie de vous embarquer quelques minutes direction octobre.
Le vent fera craquer les branches, la brume viendra dans sa robe blanche. Il y aura des feuilles partout, couchées sur les cailloux. Octobre tiendra sa revanche.
Octobre, c'est le 4e single de l'album et un clip sobre et poétique réalisé par Maxime Ruiz sort à l'automne 94. Quelques mois plus tôt, le 1er avril, le grand photographe humaniste Robert Doisneau est mort et Ruiz décide de lui rendre hommage à travers cette vidéo réalisée dans des tons de sépia qui donne une touche nostalgique et intemporelle à l'ensemble. Dans ce clip, on voit d'un côté Cabrel chanter seul en guitare-voix dans une bibliothèque désaffectée et de l'autre, tout un petit scénario autour de Robert Doisneau qu'un comédien vient incarner à l'écran en train de se promener dans un village de campagne, appareil photo au point, prenant des clichés des arbres, des chevaux, des fleurs. Au milieu de la chanson, Cabrel parle d'enfants qui jouent dehors et je cite de dessins qui apparaissent sur la buée des fenêtres, deux éléments qui sont repris à l'image. Le douaneau fictionnel supervise les devoirs d'un petit garçon habillé en uniforme d'écolier, clin d'œil à certaines des photos pour lesquelles l'artiste est le plus célèbre. En parallèle, on a deux petites filles, elles aussi revêtues d'un uniforme qui évoque une période encore plus ancienne, peut-être le début du 20e. L'une des deux s'affaire à écrire ce qu'on devine être une déclaration d'amour que le postier du village viendra remettre au petit garçon un peu plus tard. C'est mignon tout plein, ça fait pas de vagues, c'est tout ce qu'on attend d'un clip de Cabrel. Et l'anecdote marrante que j'ai trouvée dans le livre « Une vie en chanson » de Thomas Chaline concerne les conditions de tournage du clip. Un assistant de Maxime Ruiz avait proposé d'aller filmer dans un petit village d'Auvergne, d'où sa grand-mère est originaire. Le lieu semblait parfait, avec ses petites routes, ses champs bordés de nature et ses habitants un peu trop accueillants. Apparemment, le premier jour du tournage a été perturbé parce que les nombreux villageois venaient taper la discute avec l'équipe et les inviter à boire des verres chez eux.
C'est génial.
Une hospitalité touchante, mais qui a conduit l'équipe à éviter les rues principales les jours suivants pour tourner quelques plans plutôt à l'extérieur du village. Moralité, la prochaine fois, venez tourner à Paris, au moins vous êtes sûr d'être mal reçu.
Ah, c'est terrible, le clip comme ça, franchement, ça doit être hyper marrant, quoi.
Mais il y a une séquence comme ça dans Bienvenue chez les Ch'tis, tu sais, où il tape, il fait sa tournée de postier, en
et
fait,
il pourrait
habiter à boire des coups chez tout le monde. Bah, ouais. Ça s'est passé comme ça pour le clip d'octobre, voilà, maintenant vous le savez.
Ah, c'est la forte, même combat, quoi. Alors, je crois qu'on a bien fait le tour de ce samedi soir sur la Terre. C'est le moment maintenant de faire le bilan de ce disque iconique des 90s. Alors, votre avis, c'était comment de réécouter Francis en 2021 ? On va commencer par toi, Olivia.
Ben écoute, tu chantes à tue-tête les 25 premières minutes de l'album parce que tu connais tous les tubes, ouais, évidemment. Mais bon, voilà. Hein, une fois que tu as fait le tour des chansons que tu connais, je pense pas que je vais écouter ça au quotidien. Malgré tout, c'est un petit peu. Moi, je trouve que c'est un petit peu vieilli, peut-être. Ah. Ou en tout cas, c'est plus tout à fait dans mon goût du jour. Après. Comme d'habitude, j'ai l'impression que je dis toujours la même chose, mais j'ai une grande tendresse pour François Cabrel.
Il est gentil.
Il est gentil, il est sympa, et pour ça, on lui met un 10 sur 10, parce que vraiment, c'est un gars chic.
Non, mais alors, je sais pas si vous avez déjà joué à ce jeu avec vos potes, mais de temps en temps, en fin de soirée, moi, je fais un petit tour de table pour savoir quelle est la personnalité pour laquelle vous auriez de la peine et du chagrin le jour où elle disparaîtrait. Et ben Francis Cabrel fait l'unanimité.
C'est horrible ton jeu.
Oui, ben, c'est horrible, c'est un jeu de fin de soirée. Mais tu découvres que tes potes n'ont pas toujours les mêmes avis que toi et c'est assez drôle. Mais Francis, tout le monde est triste. Voilà, tout le monde le trouve sympa, Francis Cabrel.
Mais du coup, je voudrais qu'on revienne sur ces 25 premières minutes quand tu chantes et que tu connais les paroles par cœur. Mm-hmm. Qu'est-ce que tu ressens à ce moment-là?
Bah, comme quand t'es au fin fond d'une petite route française où tu capes que nostalgie et que tu réécoutes des chansons que t'as pas entendues depuis très longtemps et que tu chantes à tue-tête en faisant des mini-vagues avec ton bras dehors dans le vent.
Oh, trop bien, trop bien. J'ai trop envie de voir ça.
Donc non, t'es content parce que forcément, il y a quelque chose qui te rattache un peu à ton enfance, quand tu chantais les chansons de Francis Cabrel à l'école, enfin voilà.
Donc c'est une madeleine en fait.
Oui, c'est la madeleine de madeleine, Proust. C'est okay. Un peu une madeleine, je pense. Ouais, tout à fait.
Ok, bon, quand même, tu lui donnes la moyenne ou pas aujourd'hui?
Ah bah bien, Francis il est sympa, bien sûr qu'il a la moyenne.
Ouais, voilà, c'était plié de toute façon. Grégoire, à toi.
Ouais, c'est un peu la même chose, hein. C'est un peu ce côté petite madeleine. Après, voilà, pareil, je vais pas me remettre à écouter Francis, même si je trouve qu'il écrit très bien, que ses mélodies, voilà, c'est pour de la variette, c'est de la bonne cam, hein, j'ai envie de dire.
Oui.
C'est quand même le haut du panier, faut le reconnaître. Maintenant, je vais pas me remettre à écouter Francis Cabrel. Ça m'a, voilà, comme dirait Oli, j'ai eu du plaisir à réécouter les chansons que je connaissais. Après, écouter l'album entier, bon, pas trop. Pas trop. Okay. Désolé, Francis.
Bon, d'accord. Et alors, toi, Fanny?
Non, mais c'est vrai que c'est marrant parce que je me suis rendu compte, là, c'est sans doute la première fois de ma vie. Ben, j'ai chouré l'album chez mes parents et c'est la première fois de ma vie, en tant qu'adulte, que je lançais un album de Francis Cabrel. J'écoute jamais ça. Comme tu disais, on l'entend à la radio et on est très content de tomber sur une chanson de lui. Après, j'étais hyper contente de faire cet épisode et d'avoir l'occasion de me plonger un peu plus dans son histoire.
Moi, m'a donné envie d'aller à Stafford et d'aller faire un barbecue avec lui. Enfin, tu sais, je suis sûre qu'il t'accueillerait hyper gentiment.
Ah ben, vous savez quoi? Je m'engage, on va faire un séminaire Radio Gazette à Stafford. Mais on va aller voir Francis, on va toquer chez lui.
Il y a un truc dont on n'a pas parlé, c'est le traumatisme le jour où il a rasé sa moustache. C'était il y a quelques années, et la première fois qu'on l'a revu à la télé sans moustache.
Comme le chanteur d'IAM.
Comme avec Nathan, bah ouais, bien sûr. Bah ouais.
Pardon, je t'ai coupé, Fanny. Excuse-moi.
Non, on divague. Non, j'étais super contente d'avoir l'occasion d'écouter cet album pour la première fois. Voilà. C'est effectivement une sorte de Madeleine de Proust. Je pensais pas autant aimer Cabrel, en fait. Mais je l'aime vraiment beaucoup. Et puis son côté good guy, quoi. C'est vraiment un mec bien. Et ça fait très plaisir dans ce monde qui va si mal de temps en temps d'avoir des figures publiques comme ça qui sont des gens irréprochables.
Boum, pavé dans la mare. Ouais,
et
tiens.
Et toi?
Alors moi j'ai pris beaucoup de plaisir à écouter cet album avec du coup le prisme de comment c'était foutu et genre j'ai halluciné par exemple sur Je t'aimais, je t'aime et je t'aimerai. Je trouve que les arrangements sont somptueux, t'as le violoncelle au début, t'as les enfants qui chantent, donc il y a un chœur dont on n'a pas parlé, mais il y a un chœur d'enfant.
Oui, c'est le
Bobigny,
chœur de Bobigny, exactement, ouais.
Qui d'ailleurs
Bondy,
je crois que c'est Bondy, et c'est des mecs, c'est des mecs, c'est un chœur qui a fait qui a accompagné la chanson française pendant 50 ans,
qui existe
fait
toujours,
des trucs
hein.
Avec plein de gens.
Bah ouais
alors, les mots m'ont grandi, ils ont été un peu remplacés à un moment quand même. Mais ils ont chanté avec Pierre Bachelet, avec plein de trucs. Bon bref, mais en tout cas moi ce que j'ai trouvé assez fabuleux, c'est les arrangements parfois, et sur ce morceau je trouvais ça mais hyper novateur quoi, et c'est vraiment vraiment très très bien foutu. Voilà, moi j'aime beaucoup les morceaux où il est solo à la gratte, un peu pépère. Voilà, dès que ça devient un petit peu blues country, moi c'est plus ma cam.
C'est plus discutable, effectivement. L'esthétique est un peu vieillie, ce côté bluesy terroir. Attention, attention. Ouais. mais ceci dit, on n'a pas parlé de Francis Cabrel aujourd'hui parce que il est encore actif. Ah, il a sorti un album il y a quelques mois.
Et il y a un single à l'aube revenant. Hein.
Et c'est vachement bien. Je l'ai écouté pour le coup pour des raisons professionnelles.
Il y a une chanson sur son père.
C'est le single, effectivement.
Qui est très belle, hein.
Ouais. Et franchement, rien à dire, quoi. C'est chouette, c'est bien foutu, c'est bien écrit et c'est pas du tout bateau comme mélodie. Donc.
Tu te déchires, Francis. Bravo, on t'aime, Francis.
Bravo, ouais, Francis. Non mais c'est la valeur sûre, hein, bien sûr.
Ouais. Il est toujours là, il est toujours présent.
Moi je trouve que c'est un excellent album et vous savez quoi, j'ai failli le racheter il y a pas longtemps en vinyle, mais je l'ai pas fait.
Point trop l'info.
Et un jour on va apprendre un horrible scandale sur Francis Cabrel.
J'espère pas. Mais tu vois, de ma vie, j'aurais jamais pensé faire un épisode où citer les noms de Pierre Bachelet et Jean-Pierre Madère. Alors,
il y a un truc qu'on n'a pas dit sur Jean-Pierre Madère, c'est qu'il a remplacé Francis Cabrel dans Les Gaulois. Quand Francis Cabrel a arrêté, qu'il est parti en solo.
Ah,
ouais.
Tout est lié, hein.
Ah non, mais je vous
c'est
le dis.
C'est fou, hein.
Bien sûr. Donc voilà, c'est déjà la fin de notre émission. On avait envie de partager avec vous notre avis sur cet album culte des 90s avec le cassette crew. Il y avait Fanny, il y avait Grégoire et il y avait Olivia.
Merci Manu.
Merci.
Alors on se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode. En attendant, on vous donne rendez-vous sur Twitter, Instagram et Facebook. Comme d'habitude, laissez un message après le bip sur notre répondeur cassette pour une réclamation ou quelques mots d'amour.
Ou votre meilleur accent toulousain.
D'Agen.
Allez. Non, c'est Agen.
Agen.
Bah oui.
Blagnac.
Ouais, alors voilà. Si vous le faites mieux bon, que Fanny, vous nous le dites. Et vous pouvez nous appeler donc au 07 61 36 84 15. Vous retrouverez le numéro dans la description. Ne zappez pas, on va écouter vos derniers messages après un dernier titre. Alors on se quitte maintenant avec La Corrida, Les Petits Chats. Gros bisous et cœur avec les doigts.
Bisous, à bientôt.
Bisous.
Bye bye.
Depuis le temps que je patiente dans cette chambre noire, j'entends qu'on s'amuse et qu'on chante au bout du couloir. Quelqu'un a touché le verrou et j'ai plongé vers le grand jour. J'ai vu les fanfares, les barrières et les gens autour. Dans les premiers moments, j'ai cru qu'il fallait seulement se défendre. Mais cette place est sans issue, je commence à comprendre. Ils ont refermé derrière moi, ils ont eu peur que je recule. Je vais bien finir par la voir, cette danseuse ridicule. Est-ce que ce monde est sérieux? Est-ce que ce monde est sérieux? Andalousie, je me souviens les prairies bordées de cactus. Je vais pas trembler devant ce pantin, ce minus. Je vais l'attraper, lui et son chapeau, les faire tourner comme un soleil. Ce soir, la femme du torero dormira sur ses deux oreilles. Est-ce que ce monde est sérieux? Est-ce que ce monde est sérieux? J'en ai poursuivi des fantômes, presque touché leurs ballerines. Ils ont frappé fort dans mon cou pour que je m'incline. Ils sortent d'où ces acrobates? Avec leurs costumes de papier, j'ai jamais appris à me battre contre des poupées. Sentir le sable sous ma tête, c'est fou comme ça peut faire du bien. J'ai prié pour que tout s'arrête. Andalousie, je me souviens. Je
je les entends rire comme je râle, je les vois danser comme je succombe. Je pensais pas qu'on puisse autant s'amuser autour d'une tombe. Est-ce que ce monde est sérieux? Est-ce que ce monde est sérieux?
Si, si, hombre, hombre, baila, baila, hay que bailar de nuevo y mataré los otros.
Otras vidas y otros toros y mataremos otros.
Venga, venga, baila y mataré los otros.
Salut les Radio Cassettos, merci beaucoup pour votre épisode sur Björk, c'était une très très bonne occasion de le réécouter, et surtout comme à chacun de vos épisodes, j'ai appris plein de choses. D'ailleurs, Homogénique, c'est le premier album d'elle que j'ai découvert, je l'avais vu sur un fameux prospectus du Club Yale, mais ma grande sœur, qui d'habitude me donne de très bons conseils, me disait « Non mais prends pas ça, elle est chelou elle ». Bien sûr, je l'ai écouté, mais heureusement, par je sais plus quel hasard, un jour j'ai entendu Yoga, j'en suis tombée folle amoureuse, j'ai passé des soirées à la chanter avec mon casque sur les oreilles, hyper intensément, en étant persuadée de la chanter aussi bien qu'elle. Bon, j'y crois toujours autant, donc je vais m'abstenir de vous la chanter, et je vais vous laisser en vous disant encore une fois merci, salut.